Bon, je vais arrêter l'exercice. T'as vu le... On a fait juste 2 minutes là, où j'ai pas parlé. J'ai attendu. C'était déjà trop long pour certains. Qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que j'aurais poussé l'exercice à faire 5 minutes. Ou même 10 minutes. Qu'est-ce qui se serait passé ? On a envie de dire, peut-être Patrick serait monté, il aurait pris le micro. Bon, il faut qu'on avance là, Christian, qu'est-ce qui se passe ? Et ça introduit un petit peu ce que j'aimerais vous apporter ce matin. La patience. Savoir attendre. Qu'est-ce qui se passe dans nos moments de vie quand on doit attendre ? On doit attendre, et on va voir différentes manières aussi de cette notion d'attente et de patience. Et ça va dans le sens aussi de la persévérance, qui est un peu la série de messages que j'ai en ce moment sur courir avec Dieu. Et on avait vu les différentes formes de la persévérance. J'aimerais voir une autre forme de persévérance avec vous aujourd'hui, la patience. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Jacques, l'épître de Jacques. Juste un ou deux versets. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous avez rencontrées, sachant que la... Santé. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Le mot patience que j'ai mis ici en rouge peut être traduit dans d'autres traductions par le mot persévérance. Et là, c'est la nouvelle français courant. Et on voit que ici, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout. Parce qu'en grec, le mot patience, c'est hypomone, ça veut dire il y a une notion d'endurance en fait. C'est aussi quelque chose d'actif. Ce n'est pas juste « je fais rien », mais il y a cette notion d'actif. Et on le verra avec la notion de foi aussi. Attendre, ce n'est pas seulement rien faire. Il y a quelque chose aussi qui se passe aussi en nous, dans notre relation avec Dieu. Et je remercie le Seigneur pour la parole qui a été donnée, parce que ça va vraiment aussi dans le sens de ce que j'aimerais vous partager ce matin. Toujours dans Jacques, au chapitre 5, il va un peu plus loin dans cette notion de la patience. Voilà ce qu'il dit. « Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Prenez, mes frères et mes sœurs, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous voyez que cette patience, ce n'est pas toujours très populaire. Si vous voulez faire fortune dans votre vie, écrivez un livre sur les clés ou sur les moyens d'avoir du succès de manière instantanée. Là, ça va se vendre. Ça va se vendre, ça va bien marcher. Les clés du succès instantané. Parce qu'aujourd'hui, tout est instantané. Et on ne prend plus le temps pour rien. Et le monde s'accélère. On voit qu'on a de plus en plus d'outils qui nous aident à faire les choses plus vite et mieux, mais on est de plus en plus impatient. C'est impressionnant. Moi je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait des bibliothèques. Et quand on voulait un livre, on allait à la bibliothèque. On prenait une carte de bibliothèque, on se déplaçait, on devait comprendre comment la bibliothèque fonctionnait. On devait chercher le livre. On devait chercher le livre. Et quand on l'avait trouvé, il y avait une joie de l'avoir trouvé. Aujourd'hui, avec le téléphone, on a accès à les bibliothèques du monde entier en un clic. Et c'est comme ça, on pourrait prendre plein d'exemples comme ça. Et on pourrait prendre... C'est quand même incroyable que c'est à la fois super, et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que malgré tous ces outils, tout ce qu'on a, on est de plus en plus impatient. Il fut une époque, il y a fort, fort, fort longtemps, lointain, et où il y avait des cabines téléphoniques. Vous rappelez les cabines téléphoniques ? Et si le téléphone était pris à la maison parce qu'il y avait le frère ou la sœur qui était pendu au téléphone, il fallait aller dans une cabine téléphonique pour appeler quelqu'un. Il y avait les pièces, vous vous rappelez les pièces ? Moi, j'ai connu, je crois, encore les pièces. Mais c'était, moi, j'étais encore de la génération qui a vu le changement avec les cartes. On pouvait acheter des cartes parce que les pièces se faisaient cambrioler les cabines téléphoniques. Mais il fallait mettre les pièces dans... Il fallait marcher jusqu'à la cabine. On appelait la personne, elle ne répondait pas. On raccrochait, on disait, j'essayerai plus tard. On retournait à la maison et on remarchait jusqu'à la cabine. Et si on l'avait, on était content. Aujourd'hui, on a le téléphone, on est assis chez nous, on appuie, il ne répond pas tout de suite, on s'énerve. On peste. Il y a un problème quand même. Ça devrait nous faciliter la vie. On pourrait multiplier les exemples. Je pense qu'on ne prend plus le temps maintenant pour rien, simplement. On ne prend plus ce temps, on ne laisse plus du temps au temps, j'ai l'impression. Et on ne laisse aussi plus du temps à Dieu. Dieu nous demande d'être différents de ce qui nous entoure et de cette accélération par moment. Et il aimerait ce matin nous rappeler une chose tout simple. Soyons patients. On va voir comment on est appelé à être patient parce que Dieu lui-même est patient. C'est sa nature. Et on verra aussi qu'est-ce que la patience produit dans nos vies. Mais avant cela, j'aimerais donner quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont été impatientes. Parce que vous savez, des fois, pour mieux comprendre la patience, on parle d'impatience. Parce que ça, on comprend. Hein ? Moi, le premier. On comprend vite. Et on n'est pas là pour jeter la pierre à ces personnages de la Bible parce qu'ils nous ressemblent tellement. Prenons Abraham, par exemple. Qu'est-ce que Dieu lui dit ? Il n'arrive pas à avoir d'enfant, pas de descendance, qui est très important dans une époque, dans cette époque-là. Et voilà que Dieu lui dit, je vais te donner non seulement un enfant, mais une descendance. Il lui montre les étoiles. Waouh ! C'est merveilleux. Et combien de temps pensez-vous qu'il s'est passé entre ce moment où Dieu lui parle et la réalisation du début de la promesse, juste d'avoir un enfant ? Combien de temps il se passe ? 80 ans, non, quand même. Parce qu'il avait déjà 75 ans au moment où il a reçu la promesse et est sorti d'Ur. Donc, voilà, 25, un bon chiffre. Exactement, 25 ans. Parce que dans Genèse 12, il a l'appel, il est dit qu'il a 75 ans. Et dans Genèse 21, il est dit qu'il a 100 ans lorsqu'Isaac naît. 25 ans, exactement. 25 ans, c'est long. C'est long quand même, hein. C'est pas. Déjà, quand Dieu ne nous répond pas au bout de 6 mois, c'est long. Déjà, c'est long. 25. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Ben, on essaie de faire par nous-mêmes. Ben, Sarah l'a dit, Abraham, ici. C'est comme ça que ça marche. On sait très bien, hein, mesdames, messieurs, vous savez comment ça marche. Madame dit, elle a pensé à quelque chose, alors il faut faire ça. Va vers la servante, va voir un enfant avec elle. Et voilà qu'il s'exécute, mais ça a donné Ismaël, voilà. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Et ça a créé plus de difficultés au sein même de la famille. Ça a amené des difficultés. L'impatience, quand on veut faire la place de Dieu, ça amène des problèmes. Et des difficultés qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui, entre Ismaël et Isaac, ces deux nations. Mais il y a des promesses pour Ismaël. Amen. Le peuple d'Israël, un autre exemple, au Sinaï. Le peuple d'Israël, il marche, il est au Sinaï, mais avant ça, il a attendu 400 ans que Dieu envoie un libérateur. 400 ans. C'est 4 siècles. On est en 1625. Qu'est-ce que je dis là ? 1825. 400 ans, 4 siècles, c'est énorme. C'est énorme. 1625. Ouh là là, les chiffres. Moi, les chiffres. Heureusement qu'il y a ChatGPT. Non, je rigole. Et voilà que dans le désert, Dieu appelle Moïse à aller au Sinaï, sur cette montagne, et il demande au peuple d'attendre, et il monte sur la montagne pour être dans la présence de Dieu et recevoir les paroles, les instructions de Dieu pour le peuple et qui sera aussi pour nous. Combien de temps il reste là-haut ? 40 jours. Et qu'est-ce qui se passe ? Le peuple s'impatiente. C'est quand même incroyable. Ça fait 400 ans qu'ils attendent la libération. Ils n'arrivent pas à attendre 40 jours. La patience du peuple l'amène à faire aussi ce qu'il ne faut pas. Et voilà qu'il se détourne du Dieu unique pour se prosterner devant un veau d'or. Vous connaissez l'histoire. Dernier exemple d'impatience, on pourrait en voir d'autres, mais elle est intéressante celle-là, c'est Saül et le prophète Samuel. C'est dans 1 Samuel 13. Vous savez, c'est le roi Saül qui est roi. Et Samuel lui avait demandé d'attendre 7 jours, alors qu'il y avait une guerre qui était prévue avec les Philistins. Il y avait ce moment. Et puis, avant de faire la guerre, il avait dit, avant d'attaquer, il faut attendre que le prophète Samuel vienne pour faire le sacrifice. Parce qu'à cette époque-là, le roi ne fait pas de sacrifice. C'est le prêtre. Et c'est ici en la personne de Samuel. Donc, il doit attendre 7 jours. Bon, ça va, 7 jours. Mais au bout de 7 jours, il ne vient pas. On va lire ensemble ce qui se passe. Donc Saül attendit 7 jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'Holocauste, les sacrifices de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait de l'offrir, voici que Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se disséminait loin de moi et que tu n'arrivais pas au moment fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmas, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Bah oui, ça ne se faisait pas, donc il s'est fait violence. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aura affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc, ici, Saül a été quelque part poussé par le peuple. Il a écouté la voix de son peuple, il a eu peur et il a péché par impatience. Il n'a pas pu attendre. Parfois, on est trop impatient et on veut faire les choses. On veut faire les choses à la place de Dieu, à la place de ce que Dieu nous a dit. Et on n'attend pas que Dieu le fasse. Et ici, il a voulu faire les choses à la place du prophète Samuel, mais dans le cas de Abraham et Sarah, ils ont voulu le faire aussi à la place de ce que Dieu voulait faire. Parce que Dieu avait dit, c'est par toi, Abraham, et par Sarah, que vous aurez un enfant. On ne peut pas faire les choses de Dieu à sa place. Nous sommes parfois plus pressés que Dieu. Vous vous rappelez, j'avais partagé une fois cette image ici à l'église. Parfois, Dieu, c'est une personne âgée et on marche avec lui. Vous vous rappelez cette image? Et cette personne âgée, elle va à son rythme. Et nous, on a tendance à aller plus vite que cette personne âgée. Et on arrive devant une porte et la porte est fermée. Et la clé, elle est dans la poche de la personne âgée, dans la poche de Dieu, qui lui va à son rythme. Il s'arrête, il dit bonjour aux gens, il donne des bonbons aux enfants. Et nous, on est là, on est énervés, parce que cette porte, elle ne s'ouvre pas. Mais c'est lui qui a la clé. L'impatience spirituelle peut nous amener bien des soucis. On verra dans ce texte, d'ailleurs, ça peut même nous amener à nous juger les uns les autres. On le verra. On peut être en colère contre Dieu. On peut vouloir mettre des coups de hache dans la porte. Vouloir faire par nous-mêmes. Nous sommes appelés à ressembler à Dieu. Dieu prend son temps. Ça, c'est bien quand on est Suisse. On prend notre temps. Il n'y a pas le feu au lac. Voilà ce qu'on nous dit sur les Suisses. Mais ce n'est pas tout à fait juste, je trouve. Mais bon. J'aimerais vous donner quelques exemples comme quoi Dieu prend son temps. On regarde un peu dans l'histoire de la Bible, quelques personnages. Donc, on a parlé tout à l'heure d'Abraham. Vous êtes d'accord ? Combien de temps, d'années se sont écoulées entre la promesse d'un fils et la naissance d'Isaac? Vous avez tous bien répondu, 25 ans. On va aller un peu plus loin. Quand Abraham est son fils, quand son fils a grandi, Dieu va le tenter une énième fois, une dernière fois. Un peu, c'est la dernière épreuve avant que, voilà, il est arrivé au bout du projet de Dieu. Et combien d'années se sont écoulées entre l'appel d'Abraham et le sacrifice d'Isaac? Vous avez une idée? 35, ouais, c'est bien. Plus. 40 à 50 ans. Bah oui, s'il avait 25 ans quand il est né, et on dit qu'il avait peut-être 15 ans, ou même plus. C'était un jeune homme, dit le texte. Donc ça fait du temps quand même. Hein. Et dans la tradition juive, ils disent même qu'il avait 37 ans. Voilà, il y a plusieurs théories que Isaac avait 37 ans. Au moment du sacrifice, qui n'a pas eu lieu, bien sûr. Prenons d'autres exemples, un petit peu pour nous illustrer que Dieu prend son temps. Combien d'années se sont écoulées entre le meurtre de l'Égyptien avec Moïse et l'appel du buisson ardent? Donc, imaginez, c'est Moïse qui veut libérer son peuple par ses propres moyens. Il tue un Égyptien. Il voit que ça ne marche pas. 40, 60, qui dit mieux? 40 ans, voilà, 40 ans. C'est pas mal, hein, quand même, 40 ans. Et le moment du buisson ardent, c'est quand Dieu se met en œuvre. Et lui, c'est lui qui va libérer le peuple. Ce n'est pas Moïse par ses propres moyens. On continue? C'est des images, si jamais vous ne trouverez pas ça. J'essaie de trouver des... C'est difficile de trouver des images. Voilà. Combien d'années se sont écoulées entre l'onction royale de David par Samuel et le moment où il est devenu roi sur tout Israël, où ça s'est réalisé, la promesse? Ah, et là, maintenant, ils sont méfiants. Ils disent plus 15, ils disent plus 30. Ils se disent, ah, ça doit être beaucoup. Ah, il y a des pièges, attention. Hein. 22 ans. Si jamais vous voulez savoir exactement comment j'ai calculé, j'ai 6 feuilles là. J'ai recherché. Oui, exactement. Voilà. Combien d'années se sont écoulées entre l'appel du prophète Samuel, vous vous rappelez, Samuel qui est petit? Ah, mince. Ben voilà. Je suis allé un peu trop vite. Allez, on va regarder un peu plus la promesse de l'arrivée de Jésus. Quand est-ce que c'est la première mention de la venue du Messie? Les Juifs l'attendent toujours, mais nous, pour nous, le Messie, c'est Jésus-Christ, la naissance de Jésus. La première mention de la venue de Jésus-Christ. Alors, les théologiens, là. Hein? Ah, qui c'est qui a dit 4000? Joli! 4000 ans, en effet. On peut applaudir bien fort. Non, mais c'est-à-dire que la première mention, c'est juste après la chute. On appelle ça le proto-évangile, c'est-à-dire c'est la promesse que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. C'est l'annonce de la descendance de la femme qui est Jésus. Combien d'années se sont écoulées entre la dernière mention dans l'Ancien Testament de la venue du Messie et la naissance de Jésus? Oh, mais il y a des gens qui sont trop bons, là. Ah, un peu plus précis. 400? Ouais, mais c'est juste, c'est 400 ans. J'ai fait une petite erreur, j'ai mis 425, mais c'est 400 ans. Pourquoi? Parce que la dernière parole prophétique au sujet du Messie, c'est dans le livre de Malachi en hébreu, Malachi, qui annonce les dernières paroles qui annonce la venue du Messie. Et il s'est passé, il y a eu ce qu'on appelle le silence prophétique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça a duré 400 ans. Il n'y a plus de paroles prophétiques qui ont été données. Non, mais imaginez, 400 ans, la dernière annonce de la venue du Messie. Mais imaginez l'attente. 400 ans. On dit qu'un libérateur va venir pour Israël. 400 ans. 400 ans. Non, mais c'est pas... Ça relativise quand même beaucoup de choses, des fois, hein, dans nos vies. Mais bon, c'est quand même le Messie, hein, c'est celui qui allait sauver non seulement tout Israël, mais le monde entier. Allons dans le Nouveau Testament. Parce que des fois, on a une lecture un peu rapide, comme ça, mais je ne sais pas si vous lisez le livre des Actes. Il y a combien de chapitres dans le livre des Actes? 28 chapitres. Entre le chapitre 1 et le chapitre 28, comme on voit les récits, les conversions, les miracles, page après page. On enchaîne ça, on peut lire ça en une journée, hein, en une matinée, 28 chapitres. Vous savez que ça a duré combien de temps, tout ce qui s'est passé dans le livre des Actes? 20 ? Ah, c'est bien, il y en a qui sont prudents. En 30 et 35 ans. En 30 et 35 ans. Et dans le livre des Actes lui-même, ça c'est l'apôtre Paul, combien de temps s'est passé entre la conversion de l'apôtre Paul et son premier voyage missionnaire ? Pardon ? 16. Tiens. Entre le moment où il se convertit, c'est livre des Actes chapitre 9, et le premier voyage missionnaire, c'est Actes 13, sauf erreur, ou 15, 13, conférence de Jérusalem 13. Donc c'est le moment où le premier voyage, donc il y a 4 chapitres. Combien de temps il se passe à ce moment-là ? Il y en a qui ont donné une assez bonne réponse. 13 à 14 ans. Parce qu'il est allé à Damas, etc. Voilà, c'était quelques exemples un peu pour vous montrer que des fois, on est faussé par notre lecture. Parce qu'on lit ça comme ça. Mais on n'est pas à la place des gens qui ont vécu ces situations et qui ont attendu. Nous sommes appelés à être patients comme Dieu l'est. Nous sommes appelés à lui ressembler. Dieu prend son temps pour faire les choses. Dieu est patient, mais j'aimerais voir avec vous ce que produit la patience en nous, produit quelque chose en nous. Quand Saül a été sous pression, parce qu'il savait qu'il fallait attendre 7 jours, mais au moment où les 7 jours sont passés, ben, il ne venait pas. Il ne venait pas. C'est ces petits moments-là d'attente, de tension. Comment on réagit à ce moment-là ? Et ce qui est ressorti du cœur de Samuel, c'était de faire un choix. Est-ce qu'il continue à faire confiance à la parole du prophète, à la parole de Dieu, ou est-ce qu'il fait par lui-même et il n'attend pas ? Il a été confronté à un choix dans son cœur. On est tellement tenté de vouloir faire, un petit peu comme dans l'exemple que je disais tout à l'heure, on doit attendre, il se passe quoi ? Je ne veux pas perdre mon temps, ça fait 10 minutes que j'attends, il ne dit rien. Mais attends, je suis venu pour faire un culte. Demain, j'ai encore ça cet après-midi, j'ai ci à faire. Attends, je veux rentabiliser mon temps. Je ne veux pas attendre. Non, ça ne va pas. Alors, on y va. Je lui prends le micro et je vais faire le message. Non, j'exagère. Hein. Je ne sais pas si vous pensez ça. Mais... et ce temps de patience, d'endurance, vient tester nos motivations profondes et notre foi. Ce n'est pas un temps où on est passif. On est très actif dans ces moments-là. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jacques ? Veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, ou votre patience, afin que vous soyez parfaits sans défaut. La patience et la persévérance produisent en nous cette endurance qui nous amène à la maturité. Parce qu'ici, le terme en grec parfait, ce n'est pas je suis parfait sans défaut, c'est je suis mature, je suis arrivé à un état où c'est comme le fruit qui arrive à maturité, vous voyez ? Donc, il y a un processus qui se passe en nous pendant ces temps d'attente. Ici, le mot parfait, c'est téléos, c'est la finalité, c'est plein, complet, entier. La patience va produire en nous un fruit, va produire quelque chose en nous. Elle va non seulement révéler notre cœur, nos motivations profondes, mais suivant la réaction, le choix qu'on va faire, on va soit faire ceci ou soit faire cela, bon ou mauvais. Ça va nous amener dans des actes à produire quelque chose. Dans Jacques 5, il y a cette insistance sur cette notion de labourer. Et je ne sais pas, mais si en agriculture, le laboureur sait qu'il va y avoir du temps avant de récolter. Ça fait partie de son métier. Il sait très bien que quand il plante, il y aura du temps avant qu'il récolte. Mais on peut prendre d'autres exemples. Le sportif qui veut être un sportif de haut niveau va beaucoup investir, va être patient dans son entraînement jusqu'à ce qu'au moment, il obtient le fruit de son travail. C'est impressionnant quand on voit l'équipe suisse, tout ce qu'ils ont gagné actuellement, mais tout le travail qu'il y a derrière, toute la patience qu'il y a derrière. On vit des belles années, mais il y a eu un travail énorme qui a été fait pour arriver à ce résultat-là. À ce fruit-là, on pourrait dire, le fruit de leur travail. Prenez un musicien. Un musicien va travailler ses gammes, va travailler son solfège, va travailler son instrument. Et pour arriver à jouer une pièce de musique difficile, très difficile, et pour arriver même à faire une œuvre qui est difficile mais magnifique, ce sera la récompense du fruit de son travail. Et pour le monde spirituel, non, 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 il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Non, c'est Dieu, il fait tout. Il accomplit toute chose, hop, comme ça. Vous savez, c'est la bouteille et le génie. On frotte 3 fois, puis il arrive et puis il nous accorde 3 vœux. Comme ça. On a cette conception, des fois, du christianisme et de la foi chrétienne. Dieu a tout accompli, il a tout fait. Mais les choses prennent parfois du temps. Parfois, on fait des disciples, on dit « Allez, on va faire des disciples !» On prie une fois avec eux dans la rue, puis on les laisse comme ça. Mais ce n'est pas faire des disciples, ça, mes amis. Ça, c'est faire le premier pas du disciple. Mais un disciple, c'est l'amener à la maturité du disciple. Et trop souvent, on va trop vite et on ne pose pas les bases dans la vie des gens, de ceux qui sont jeunes dans la foi. On ne pose pas des bases, on ne prend pas le temps de les poser. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne tiennent pas dès que la difficulté arrive. Et on s'étonne. Il faut du temps pour produire un résultat qui dure. Vous voyez? Il faut du temps. Il faut du temps pour produire une récolte, je disais. C'est l'image que Jacques prend du monde paysan. Il faut labourer. Il faut ôter les pierres. Il faut arroser. Il faut semer. Il faut attendre. Il faut désherber. Il faut arroser. Il faut attendre. Je pourrais continuer encore 5 minutes comme ça. Il faut protéger des animaux qui pourraient venir manger ça, des oiseaux, je ne sais. Ou si c'est des arbres fruitiers. Et quand l'arbre est là, les fruits commencent à être là, mais ils ne sont pas mûrs. Il faut attendre. Et quand les fruits sont mûrs, là, on peut récolter. Il y a une fenêtre là, et il faut vite récolter. Parce qu'il y a un moment donné, il faut récolter. Parce qu'après, c'est trop tard, ça pourrit. Il faut laisser le Saint-Esprit faire patiemment son œuvre dans nos cœurs et ne pas toujours vouloir des résultats instantanés. Et quand on n'a pas ce cœur patient, cela peut produire un autre fruit, l'anxiété. Parce qu'on n'a pas obtenu le résultat instantané. Alors, on entend quelqu'un témoigner et dire « Ah, mais comment ça se fait qu'il vit ça et dans sa vie et moi, j'ai pas la même chose. » Alors qu'on est là en même temps et lui, il a ça tout de suite et moi, j'ai pas. Parce qu'on juge à l'apparence. Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que c'est lié à ça. Parce que la saison d'un tel, c'est peut-être l'été. Il récolte, mais vous ne savez pas le travail qui a fait qu'il en arrive à la récolte maintenant. Il y a eu tout un processus. Et peut-être qu'un autre, c'est l'hiver. Alors l'hiver, on ne porte pas de fruits. Mais l'hiver est nécessaire. Et peut-être que dans cet hiver-là, on ne voit rien à l'extérieur, peut-être d'un premier regard, mais peut-être qu'à l'intérieur, ça travaille dans les racines. C'est caché, c'est profond, c'est dans le secret, c'est dans l'intimité. Et là, il y a un processus qui se fait. Dans cette attente, il y a quelque chose qui se fait au plus profond de nous-mêmes. Il y a une foi qui est éprouvée, il y a une foi qui est travaillée, il y a une relation, il y a quelque chose qui se produit en nous, il y a des choses qui remontent peut-être dans cette période-là. Vous savez, parfois, on voit des grands ministères qui ont beaucoup de fruits dans leur vie, beaucoup d'onction, beaucoup de résultats. Mais on ne sait pas par quoi ils sont passés. On ne sait pas par quel chemin ils ont traversé. Peut-être des moments de doute, des moments où ils n'ont pas obtenu, ils n'avaient pas ça. Des moments où ils se tenaient vraiment, ils criaient à Dieu, ils étaient à genoux, c'était difficile. Et ils sont passés par des moments comme ça. Et nous, on voit le résultat. On dit, waouh ! On voit le résultat. Vous savez, on peut prendre un exemple plus terre-à-terre, le foot. Si vous voyez un super joueur de foot jouer, vous dites, oh, comme il tape, là, tac, bah, but, lucarne. Je vois mon fils qui a commencé le foot. Alors, maintenant, je suis sur les terrains. Allez. Commence à m'intéresser au foot. Je découvre ce monde. et donc, on voit, alors, c'est Mbappé, CR7, ta-ta-ta. Et puis, ils veulent tous jouer comme CR7. Voilà. Mais attendez, lui, ça fait des années qu'ils travaillent. Et eux, ils pensent qu'en une seconde, là, parce qu'ils ont le maillot, Et après, ils reviennent, ils sont pris 10-0 avec l'équipe. Je crois même que c'était plus. Hé, hey, les gars, tranquille, tranquille, ça va aller. Il faut juste persévérer, patient, travailler, voir si vraiment tu es fait pour ça. Enfin, il y a un processus qui doit se faire. Et c'est un peu comme ça dans nos vies, à chacun et à chacune. On est dans des saisons différentes. Et c'est OK. Et on doit accepter ça. On ne doit pas se comparer. Et peut-être qu'on est dans le printemps. On voit déjà les prémices, les pousses qui arrivent. Mais c'est encore fragile. Ce n'est pas encore la récolte. On vit à des rythmes différents. Laissons le Seigneur labourer notre vie à son rythme. Et surtout, j'ai noté ça, n'essayons pas de tirer sur les feuilles. Des fois, on veut faire pousser plus vite. Hein, Seigneur, ça ne va pas assez vite. Je ne sais pas si ça saurait dans le monde paysan que si on tirait sur les fruits, ça allait plus vite. Mais ça ne marche pas. On ne peut rien faire. C'est terrible, hein, cette impuissance de pouvoir rien faire. Et je pense que c'est laisser le Seigneur au contrôle, en fait, au final. C'est laisser le Seigneur faire. Parce que la pluie qui tombe, qui fait pousser, c'est le Seigneur qui la donne. On ne peut pas créer la pluie. On ne peut pas créer ça. Parfois, on veut aussi faire avancer les choses plus vite. Alors, on va aller chercher des engrais spirituels. On va booster le truc. Nous, on va avoir des problèmes après. On sait très bien, on en revient à des pesticides et de tout ça. Et c'est vrai que des fois, en tant que chrétien, on veut pousser le truc. Alors, on va aller voir tel ministère, telle grande convention. Puis, on court de convention en convention, de rencontre en rencontre pour trouver le truc qui va débloquer la situation. Le machin, les 7 clés, la méthode. Alors, je ne suis pas contre qu'on se nourrisse de bons enseignements. Et on a besoin de fortifier notre foi, on a besoin d'entendre d'autres choses. Ce n'est pas ça que je dis. Mais n'oublions pas qu'on a accès directement au Seigneur et à sa parole. Tout est là. Le Saint-Esprit est en nous, est en toi, est en moi, est en chacun de nous. Et sa parole est là. On a tout. On a juste à se mettre à l'écoute du Seigneur. Rien ne peut remplacer une vie de marche régulière avec le Seigneur. Rien. Rien, rien, rien. Courir avec Dieu avec patience et persévérance, comme j'en parle en ce moment, c'est passer ce temps à cette écoute, se mettre au pied du maître. Se mettre à part pour lui. Personne ne va le faire à votre place. Personne ne va le faire à votre place. Aucun grand ministère. Aucune formation ne va le faire à votre place. Aucune église ne va le faire à votre place. C'est entre toi et Dieu. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Il y a cette parole qui dit « Ferme la porte de ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Matthieu 5, verset 6. « Te le rendra », c'est le mot « récompense », salaire en grec. On donne un salaire à celui qui a travaillé. Ce n'est pas un autre ministère qui va le faire à ta place. C'est toi qui dois te mettre à genoux. C'est toi qui dois chercher la face de Dieu. C'est toi qui dois attendre patiemment jusqu'à ce que... Jacques prend l'image du laboureur et du paysan qui s'attend à des fruits. Est-ce que vous pensez qu'un laboureur, il fait ça par hobby? Ça pour occuper son temps? Il fait ça par plaisir. Ben, j'espère que vous faites votre métier par plaisir. Mais est-ce que vous pensez qu'il fait ça, un laboureur fait ça seulement par plaisir? C'est ça le but? Non. Il le fait pour obtenir du fruit. Et une récolte. C'est un investissement. Le temps d'attente, c'est un investissement. Aucun laboureur ne fait ça comme ça. Il fait pour obtenir quelque chose. Mais aucun laboureur vous dira... Si vous allez le voir à la campagne, vous lui dites « Ah, vous êtes en train de semer la semaine prochaine, la récolte ?» Il va vous dire « Mais vous venez de quelle planète ?» Et aucun laboureur est conscient que ça va arriver tout de suite. Comme dit l'apôtre Jacques dans le texte que nous avons lu, il parle de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Tant qu'il n'y a pas la pluie de la première et de la dernière saison, il n'y a pas de résultat. La moisson vient seulement après. Vous savez que là, en Israël, il y a cette pluie de cette première pluie. La première pluie, c'est en général vers fin octobre, début novembre. C'est celle qui vient juste après qu'on ait semé. Et c'est cette pluie qui permet que ça germe. S'il n'y a pas cette pluie qui arrive, ça ne permet pas que ça germe. Et après, on attend. Ça pousse tranquillement. Puis, il y a une pluie qui arrive plus tard, qui est la pluie de l'arrière-saison, qui, elle arrive fin avril, début mai. Et cette pluie-là, elle arrive pour faire pousser et faire arriver le fruit à maturité. S'il n'y a pas cette pluie-là, ben, le fruit n'arrive pas à maturité. C'est intéressant. C'est intéressant. Le laboureur a besoin de patience pour que la nature fasse son travail. Le chrétien a besoin de patience pour que le Seigneur fasse son travail. On ne peut pas créer la pluie, comme je disais. Mais par contre, le laboureur attend avec impatience. Là, ça vaut la peine d'attendre. Parce qu'à un moment donné, il y a la récolte. Je termine avec... résumer un petit peu ce qu'on a partagé ce matin, vous laissez ces pensées-là. La première pensée qu'on a vue ce matin, c'était de se dire que la patience, elle révèle ce qu'il y a dans nos cœurs, nos motivations. Mais la patience, c'est aussi du temps pour obtenir du résultat. Il n'y a pas de raccourci spirituel. Mais heureusement, la patience produit du fruit, toujours, toujours. Il y a un fruit qui est attaché à ça si on persévère jusqu'au bout. Notre attente n'est jamais vaine avec le Seigneur. Jamais. Et dernièrement, c'est le caractère même de Dieu et nous sommes appelés à lui ressembler. Deux erreurs que nous faisons trop souvent, c'est qu'on n'attend pas, on est impatient et que des fois on attend tellement qu'on n'y croit plus. On ne croit même plus en la promesse et on ne s'attend même plus à la récolte. L'attente, la patience produira toujours un fruit. Et j'aimerais vous encourager ce matin, de dire, mais ne lâchez rien. Ne vous découragez pas. Il y a le salaire qui vient, la récompense vient dans vos vies. Alléluia. Soyons comme Dieu à son image, patients et persévérants. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Au temps marqué, Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Dieu a été patient, mais il y a eu un moment donné, c'est arrivé, Jésus est venu. Alléluia, c'était un changement. Et Jésus va revenir. Ça, ce sera encore un autre changement. Soyons patients. Il est parlé de l'avènement dans ce passage aussi. Et Jésus même, lui-même, n'est pas allé trop vite. Même quand il est né, il a attendu patiemment 30 ans. 30 ans. 30 ans alors qu'il est Dieu, qu'il a tout, avant d'entrer dans son ministère. Ma prière pour nous, pour chacun de nous, c'est Seigneur, aide-moi à être patient, paisible, dans ce monde surexcité, de résister à l'accélération et aux pressions qui ne viennent pas de toi. De pression qu'on subit, illégitime. Et une chose que j'aimerais vous laisser aussi, arrêtez avec ce mensonge de « je n'ai pas le temps ». On a le temps. C'est un mensonge, « j'ai pas le temps ». C'est une question de choix et de priorité. Arrêtons de dire « j'ai pas le temps ». Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je prie ce matin de venir rassurer peut-être ceux qui pensent qu'ils ont été oubliés, que tu les as oubliés. Tu n'as pas oublié. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. C'est nous qui oublions. C'est nous qui ne faisons pas. Seigneur, viens fortifier notre foi. Fortifie notre endurance. Viens nous donner ce fruit de l'esprit aussi qui est la patience, ce fruit du Saint-Esprit en nous. Et Seigneur, pour ceux qui ont été impatients, Seigneur, il y a toujours encore une possibilité. Tu n'abandonnes pas tes promesses parce qu'on a été impatient, parce qu'on a fait une erreur. Viens laver tout sentiment d'échec et viens mettre, Seigneur, de nouveau cette persévérance et cette patience d'aller jusqu'au bout. Bénis ton Église. Donne-nous en tant qu'Église aussi d'être dans ce bon équilibre en tant que responsable, en tant que pasteur, de ne pas être impatient, mais en même temps d'y aller. D'y aller et de ne rien lâcher. Au nom de Jésus.